Je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Plus de 440 cas de violation des droits de l'homme ont été recensés au mois d'août sur l'ensemble du pays, soit une hausse de 20% par rapport au mois de juillet, indique le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Certains Congolais estiment que l'idéal aurait été qu'un tel rapport soit rendu public par la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, en RDC. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 30. Pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 7000 à avoir atteint ce sujet qui vous a été préparé et soumis donc pour les débats. Nico Kalamba y est à la réalisation avec Pierrot et la Mégie et Sylvain Matundu est à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
La Constitution de 2006 s'appesantit largement sur les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les droits collectifs garantis par l'État. Alors pour confirmer cette volonté politique, cette loi fondamentale de la République démocratique du Congo, dans son article 222, alinéa 3, stipule la possibilité, donc évoque la possibilité de créer une institution d'appui à la démocratie. Et cette institution, en l'occurrence la Commission nationale des droits de l'homme, est un mécanisme mis en place par la présente loi qui s'assigne comme objectif donc d'aider les pouvoirs publics à assumer correctement leurs obligations constitutionnelles en la matière. Et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, est un organe technique, consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique et émargeant au budget de l'État en vue de préserver son indépendance et sa crédibilité. Aucun organe national, étranger ou international ne peut lui donner injonction. Ainsi donc, la loi organique du 21 mars 2003 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme stipule en son article 7 que la Commission nationale des droits de l'homme publie, en tout cas, et adresse à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des cassations et au Conseil d'État, à la Cour militaire et au parquet, un rapport trimestriel ou des rapports semestriels sur la situation générale des droits de l'homme en République démocratique du Congo et des rapports ponctuels chaque fois que la situation l'exige. Est-ce le cas aujourd'hui? Adrien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup. Nous félicitons le Bureau conjoint des Nations Unies pour sa publication régulière des rapports très bien documentés des violations de droits de l'homme. Alors la confusion qui existe, c'est que quand on parle des violations de droits de l'homme, parfois on ne se met pas sur le même, on ne met pas sur la même longueur d'onde. Violation de droits de l'homme. Aujourd'hui, la doctrine voudrait qu'on puisse différencier violation des droits de l'homme et abus de droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme, ce sont des manquements qui sont perpétrés par les officiels de l'État et à l'égard de la population civile. Par contre, les abus de droits de l'homme, c'est par exemple des exactions commises par les groupes armés à l'égard de la population. Et les exactions, ça, c'est en ce qui concerne les attaques individuelles. Ces violations-là des droits de l'homme qui sont documentées, ce sont des crimes contre l'humanité, d'une part, ou crimes de guerre. Malheureusement, l'attitude que le pouvoir public a toujours, lorsqu'il y a des publications de ces rapports, c'est toujours une attitude irréfutable de pouvoir rejeter ce rapport. Voilà pourquoi aujourd'hui le CG met en exergue aussi l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme. Si cette commission a été montée, c'est pour essayer de documenter toutes ces violations de droits de l'homme et déférer d'une manière ou d'une autre par dénonciation tous les auteurs de ces violations-là de droits de l'homme devant les autorités judiciaires. Vous avez cité la Cour, donc que ce soit militaire tout comme civil. Mais aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est que la CNDH est un peu obsolète. La CNDH n'est pas présente là où il y a des violations de droits de l'homme. Nous avons par exemple la situation des pygmées au Tanganyika, nous avons les groupes des Kamuinansapu ainsi que les autres groupes armés, nous avons la situation des réfugiés, que ce soit les déplacés, mais la CNDH ne produit pas des rapports d'une manière régulière pour faire état et voir dénoncer tous les auteurs, les présumés auteurs devant les juridictions. Alors, nous félicitons, comme nous avons dit, le bureau conjoint. Mais l'implication aujourd'hui, l'ampleur de ces rapports, c'est à ce que chaque fois qu'il y a ces dénonciations, que la population est au courant, au lieu que ça puisse contribuer à ce qu'on puisse mettre la main sur les auteurs, mais ça nous donne beaucoup plus la désolation, nous, les citoyens, parce que ces violations-là, la RDC était la capitale mondiale des viols. Aujourd'hui, la RDC, c'est l'endroit où il y a plusieurs morts, plus de 600 millions. Ça frustre le Congolais parce que ça ne répond pas vraiment aux besoins de la population. Et pour chuter dans cette tranche, je voulais dire que le bureau conjoint travaille avec les organisations non gouvernementales. Ce qui fait que le travail n'est pas facile parce que ces ONG parfois ont difficulté à avoir accès à certains dossiers. Mmh. Pour la CNDH, il y a la facilité de travailler avec toutes les structures officielles, que ce soit les OPJ, compétences générales ou restreintes, de, en principe, avoir ces rapports-là d'une manière régulière et documenter beaucoup plus que le bureau conjoint des Nations Unies.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous craignez, comme les autres, Adrien, qu'aujourd'hui, par rapport aux dispositions constitutionnelles que je venais de lire tout à l'heure, et aussi en y ajoutant quelques dispositions de la loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, qui demande à ce que, je l'ai dit, en son article 7, que la CNDH puisse publier et adresser au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, à la Cour constitutionnelle, à la Cour des cassations, au Conseil d'État, à la Cour, à la Haute Cour militaire et au parquet près de toutes ces juridictions, le rapport semestriel sur la situation générale des droits de l'homme en République démocratique du Congo, tout en gardant son indépendance. Le fait que depuis leur installation en 2015, 2 ans après, sur la situation des Kamuinasapu, on n'a pas vu la CNDH se prononcer. Sur la situation des pygmées, vous l'avez dit, Kamina, silence radio. La situation des réfugiés, aucun rapport n'a été établi par rapport à cette situation. Est-ce que vous ne craignez pas que cette commission puisse, vous l'avez dit, peut-être d'une autre manière, qu'elle devienne obsolète avant même d'être opérationnelle?
La faute, c'est à nos représentants. Les députés, on ne sait pas pourquoi ils existent. Excusez-moi, vraiment, aujourd'hui, la situation, tout ce que nous disons, monsieur Mamba Mouchikonkwe, pour ne pas le dire, avec toute son institution, répond au Parlement qui est le peuple. Parce qu'il y a des manières, de la manière que le peuple doit s'exprimer. Et ici, il s'agit du Parlement. À ma connaissance, sauf erreur, il n'y a eu que 2 publications de rapports de la CNDH depuis qu'il était mis sur pied. Or, la loi dit que c'est d'une manière semestrielle. Et c'est à raison. Parce que la Constitution dit que notre pays, c'est un état de droit. Et pour avoir un état de droit, il faut qu'il y ait des dénonciations, parce que l'État ne peut pas être partout au même moment. Mais comme la Commission, c'est une structure d'ailleurs qui a des représentations, parce que la loi avait prévu, même le règlement d'ordre intérieur avait prévu qu'il y ait des représentations provinciales pour avoir l'accès à la documentation. Mais la CNDH, jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a que 2 rapports. Mais qu'est-ce que fait le Parlement? Le Parlement devrait interpeller la CNDH. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué, le Bureau conjoint des Nations Unies publie, mais c'est pour la consommation publique, parce qu'il n'y a pas de retombée. Mais la CNDH, il ne s'agit pas de publication. Quand la CNDH s'exprime à propos d'une violation, c'est une dénonciation qui implique déjà que M. le procureur doit s'y saisir, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie, et notamment ici l'institution des droits de l'homme. D'ailleurs, à l'époque,
quand il y a eu un problème au sujet de certains Congolais qui sont interdits de rentrer au pays, au sujet des nationalités, de tout ce qui se passe. Mais la CNDH devrait s'exprimer parce que c'est une violation grave des droits de l'homme. Nous avons vu même le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se prononcer au sujet des situations qui se diversent, que ce soit des déplacés, des non-réfugiés qui sont en Angola, mais la CNDH est restée calme. Donc voilà pourquoi pour moi, ça c'est mon point de vue, c'est une institution de figuration pour tout simplement montrer au monde qu'il y a une commission de droits de l'homme, mais en réalité qui ne fait pas le travail satisfaisant, si ce n'est aucun travail.
Merci beaucoup Adrien. Pour vous, vous estimez que la CNDH c'est une institution de figuration. Est-ce que Eli Lokwa de Mbandaka partage cet avis? Eli, bonjour.
Oui, alors bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors vous avez suivi votre prédécesseur qui a évoqué au fait la CNDH qui n'est pas présente, disons autour des situations que traverse notre pays, particulièrement la situation des pygmées à Gamina, la situation au Kassai, la situation des réfugiés, silence radio, ce qui revient à conclure, en tout cas selon Adrien, que la CNDH c'est une institution de figuration.
Effectivement, je partage en partie l'intervention de mon très cher ami Adrien de Kinshasa. Mais je voudrais un peu rappeler quelque chose à mon très cher ami journaliste. La résolution 1906 du Conseil de sécurité des Nations Unies parle du respect des droits des hommes et lutte contre l'impunité dans la République démocratique du Congo. Et dans le Conseil, il souligne que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit de toute urgence mettre fin aux violations des droits de l'homme et traduire même en justice toute personne qui participe à la violation de la Constitution et aux violences des droits humains. Et dans la même résolution, 1906 fait référence à la résolution 1856 et réaffirme même les mandats de la MONUSCO à promouvoir et à défendre les droits de l'homme, à enquêter et publier les conclusions sur les violations des droits humains, et que la même résolution devra aussi continuer à coopérer et l'action menée au niveau national et international pour traduire en justice, là je répète, les auteurs des violations graves des droits de l'homme et des droits humanitaires internationaux. Si je peux m'adapter à la thématique d'aujourd'hui, et je vous le dis que moi, je suis vraiment les victimes de la violation des droits de l'homme. Suite aux manifestations pacifiques, vous connaissez la situation des mouvements citoyens aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Donc, même par rapport à la statistique, vous connaissez les événements du 19-20 dans la République. Donc, on avait massacré la population congolaise dans toute l'étendue de la République, surtout. Et je vous le dis, même dans le mouvement citoyen Lucha, Filim, et ainsi de suite, la plupart des militants sont arrêtés par des répressions de la police, et ainsi de suite. Et c'est comme si la Constitution ne garantit pas les droits humains.
Oui.
Alors, la Constitution de la République, là je le dis, garantit à tout citoyen les droits de jouir de ses libertés. Et par contre, aujourd'hui dans notre pays, les restrictions du droit à la liberté d'expression, l'interdiction des manifestations pacifiques sont croissantes dans notre société.
Oui,
la répression des mouvements citoyens, des contestations, parfois jusqu'à l'usage et l'exercice de la force. Oui, allô.
Voilà. Alors, Eli, vous avez évoqué deux résolutions qui, au fait, constituent un peu des garde-fous pour éviter ces genres de violences. Selon vous, est-ce que vous estimez, par rapport à notre thématique aujourd'hui, que si jamais la CNDH faisait son travail comme la Constitution le demande dans ses attributions avec la loi organique portant institution et fonctionnement de cette institution, je crois que on serait informé et nous mettre résoudre cette difficulté des formes d'information ou des communications entre des organes internationaux qui au fait travaillent pour la promotion des droits de l'homme, notamment le bureau conjoint des Nations Unies qui vient de publier les rapports. Je crois que ça pourrait faire confiance et aider aussi l'objectivité, par exemple, de au lieu chaque fois qu'on assiste à un jeu de ping-pong entre le gouvernement congolais et la communauté internationale quant à ce sujet.
Oui, il est vrai, parce que je ne cesse pas à dire, mon journaliste, que la RDC a tous les textes en matière des droits de l'homme. Même cette organisation, CDH, constitue un organe beaucoup plus important pour surveiller la matière des droits de l'homme dans notre pays. Mais il se pose véritablement un problème lié à la politisation de certaines institutions d'appui à la démocratie, comme CDH en sigle. Donc, cette organisation, par sa motivation, même par sa déontologie, elle devait d'abord prendre la charge de sa responsabilité pour ne pas être politisée. Là, je le dis entre parenthèses. Parce que toutefois, lorsque nous regardons la manière dont ces genres d'organisations du Fonds de l'Homme travaillent dans notre pays, c'est comme si elles travaillent pour protéger les intérêts de certaines personnes et au détriment de la population congolaise. Je vous l'ai dit, l'histoire de Bukavu, vous connaissez tout simplement, là où on avait massacré les femmes et que toute femme qui était violée à Bukavu était en charge d'un certain citoyen congolais, Dorothée de Numupwege, si je peux citer le nom, et que Dorothée qui soutenait les femmes, parce qu'aujourd'hui on l'appelle réparateur des femmes parce qu'il est gynécologue, mais il fallait que le gouvernement congolais puisse soutenir cette personne parce qu'elle est en train de prendre la charge des femmes violées à Bukavu, et que le même gouvernement congolais continue à poursuivre, à menacer la personne en question, et que la même personne cherche des soutiens à travers la communauté internationale. Or que dans notre pays, nous avons des soutiens, nous avons des militaires qui pouvaient soutenir Dorothée de Numupwege, et qui alors
merci
aujourd'hui,
beaucoup.
Il est menacé, il est attaqué par le gouvernement congolais. Ça, c'est quel pays? Excusez, je veux dire, et vous confiez.
Merci beaucoup, Élie. Voilà, merci beaucoup, Élie. Alors là, je retiens que pour vous, vous avez insisté sur la faible production des rapports par la CNDH, qui serait la résultante d'ailleurs de la politisation de cette institution. Merci beaucoup. Maître Adrien nous a rejoint, lui il est de la CAJ, association congolaise pour l'accès à la justice, donc par tous. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gilles Lungembo, bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous avez suivi vos deux prédécesseurs, qui, le premier a évoqué, disons, en qualifiant la CNDH comme une institution de figuration, et Élie Lokwa, en évoquant les deux résolutions, qui, en fait, donnent ces prérogatives au gouvernement congolais de pouvoir garantir le droit de l'homme à tout citoyen, à tous les Congolais, mais on se rend compte que cette institution mise en place brille en tout cas ou montre ses limites avec cette faible production des rapports qui serait donc la résistance d'ailleurs de la politisation de cette institution.
Oui, merci beaucoup cher de la parole que vous m'accordez. Je commence d'abord par dire à nos amis Adrien et Élie que le monde des droits de l'homme, c'est un monde vraiment complexe. C'est vrai que je suis un tout petit peu d'accord avec Élie lorsqu'il justifie la faible production par rapport à la politisation de cette institution, donc la CNDH. Parce que rappelez-vous, hier, lorsque cette institution venait de voir jour, il y a eu des contestations. Il y a eu des contestations. Pourquoi? Parce que les activistes des droits de l'homme, alors les vrais, ne s'étaient pas retrouvés dans cette commission. C'est comme ça qu'on avait demandé s'il y avait possibilité qu'on puisse faire voir les choses. Mais ceux-là qui avaient leur plan avaient estimé qu'il faut aller avec les histoires comme elles allaient. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes rattrapés par rapport à ce qu'on a toujours dit, chasser le naturel. Il reviendra au galop. Parce qu'aujourd'hui, il faut relever trois types de difficultés auxquelles la CNDH est butée. Première difficulté, vous allez vous rendre compte que c'est une institution qui travaille presque sans moyens. Parce que lorsque vous prenez même le bureau conjoint, c'est un bureau conjoint qui a vraiment énormément de moyens. Énormément de moyens. Mais la CNDH, il n'y a pas de moyens du tout. Donc je ne m'aimerais pas exagérer dans le langage. Et parce que même sur place, ici, lorsqu'on dit que les événements qui avaient eu lieu au Kassai, mais c'est un événement qui demandait effectivement vraiment beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens pour faire des déplacements.
Oui, mais maître Adrien, mais quand nous lisons l'exposé des motifs de la loi organique du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, il est clairement dit que cette institution était un organisme technique, consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique et émargeant au budget de l'État. Donc on ne peut pas évoquer la question relative aux moyens.
Oui, merci beaucoup, parce que c'est vrai que vous aviez rappelé ce que les textes disent. Maintenant, cherchez l'un des membres de cette institution, vous lui posez la question. S'il vous dit le contraire, à ce moment-là, nous saurons comment est-ce qu'il faut orienter notre débat. Parce que moi, je ne le dis pas au hasard. Nous avons certains de nos amis qui sont dans la commission au niveau de la province. Mais il faut voir comment est-ce qu'ils sont en train de travailler avec beaucoup de difficultés. Là, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, nos amis sont butés à leur... Donc, lorsqu'ils veulent travailler, et que la plupart des rapports, vous allez vous rendre compte que ce sont des rapports qui sont toujours à l'encontre de la volonté de certains membres du gouvernement. Et là, il y a blocage. Comme eux se sont retrouvés dans cet endroit-là avec la bénédiction du pouvoir... Et ils ne peuvent pas aller en crash avec le même pouvoir. La deuxième difficulté, c'est là, parce que notre ami qui était au niveau de la province, pour ne pas citer son nom, il avait un rapport déjà élaboré par rapport aux événements qu'avait connu notre province, mais chaque fois qu'il voulait publier, il a été mis même en insécurité. Il était obligé de quitter la province, d'aller se réfugier à Kinshasa, faire 2 ou 3 mois. Pourquoi ? Parce que le rapport n'était pas en odeur de sainteté avec le pouvoir. Troisième difficulté, c'est la difficulté liée par rapport à ce que Élie l'a dit. Parce qu'en matière des organisations des droits de l'homme, on ne peut pas publier des rapports en pêle-mêle. Il y a toujours ce qu'on appelle rapport annuel. Et avec la CNDH est différente peut-être de la CAJ, parce que nous, de la CAJ, nous sommes obligés soit de publier trimestriellement, soit mensuellement ou annuellement. Mais eux, lorsque je cause avec nos amis qui sont ici, ils me disent que le rapport, c'est annuellement, donc ce qui fait qu'on ne sera pas surpris d'ici la fin de l'année pour qu'on publie maintenant les événements du Kassai, parce que nous sommes en 2017. C'est vrai qu'ils ont commencé au mois d'août de 2016 et aujourd'hui, il y a eu la calmie au mois d'avril, au mois de mai de cette année, ce qui fait que peut-être le rapport est en élaboration, peut-être le rapport est en étude pour qu'on puisse...
Voilà, je ne sais pas, peut-être pour la gouverne, ou en tout cas pour votre gouverne aussi, maître Adrien, nous, en lisant l'article 7 de la loi, de cette loi organique du 21 mars 2013, on se rend compte que les rapports, en tout cas la CNDH, devraient plutôt publier les rapports en adressant, bien entendu, ces rapports à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, à la Cour constitutionnelle, des rapports semestriels sur la situation générale des droits de l'homme. Là, on ne parle pas d'annuel, c'est semestriel.
Exactement.
Et aussi des rapports, et des rapports aussi ponctuels, chaque fois que la situation l'exige. C'est l'article 7, alinéa 2 de cette loi organique.
Oui, vous allez vous rendre compte que lorsque on parle de ce rapport-là, peut-être ils ont déjà déposé acquis de droit à la présidence, au gouvernement, au parlement. Maintenant, ils ne peuvent pas passer pour publier. Donc, il y a un rapport qu'on a toujours publié chaque fin d'année. C'est ce rapport-là qui est connu de tous. Le reste des rapports, c'est peut-être comme qui dirait un secret vis-à-vis de ces institutions de la République.
Mais entre-temps, le législateur ne prévoit pas que ça puisse se revêtir d'un caractère secret. Parce qu'il dit, toujours à l'article 7, alinéa 2, la dernière phrase, que ces rapports sont publiés dans un site Internet.
Exactement. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que vous avez sur vous toute la loi. Maintenant, vous allez vous rendre compte que nos amis sont butés, je ne cesse de le dire, hier, et vérifier l'information, nos amis sont butés à une difficulté financière. Donc, on peut dire qu'ils ont une autonomie financière, mais, croyez-moi, ils ne sont pas à l'abri. Donc, ils n'ont pas ces moyens-là entre leurs mains. C'est ça la difficulté, parce que je me suis référé par rapport à nos amis qui sont au niveau de la province, et tous, ils sont ici à Kananga. Et nous nous côtoyons avec eux.
Et vous échangez voilà des informations. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir évoqué les trois difficultés auxquelles fait face la CNDH aujourd'hui. John Odian, député provincial au niveau de la province orientale, pardon, au niveau de la Chuapa, dit ceci. Il pense que la hausse de 20% des violations des droits de l'homme est partielle, d'autant plus que les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme donnent souvent les rapports des grandes villes, alors qu'à l'intérieur du pays, là où il n'y a pas ces bureaux et la connexion pour dénoncer, les chefs coutumiers, les chefs de groupement, la police et l'armée, voire même certains gouverneurs, sont devenus des demi-dieux. Il est souhaitable de sensibiliser les gens au lieu d'un simple rapport qui n'a jamais eu gain des causes. Christopher Boulambo pense que nous devons reconnaître que la plupart des institutions nationales en RDC ne jouissent pas de leur indépendance pendant l'exercice de leurs fonctions. Sylvain Louma, que nous allons d'ailleurs à qui nous allons accorder la parole d'un moment à l'autre, dit l'accroissement en termes de pourcentage observé au mois d'août par rapport au mois de juillet est dû, serait dû à la recrudescence des tensions politiques. Jean-Cel Loukoji, faire des rapports ne suffit pas, il faut prendre des mesures pour ces gens qui ne veulent pas appliquer des droits humains. Ismaël Moupoui dit que c'est bien de faire des rapports, mais ceux dont leurs droits et bafoués ne sont jamais rétablis dans leurs droits. 09 97 06 49 69 ou bien les 09 97 06 63 30 pour votre intervention directe.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, Sylvain Louma, vous êtes à Kinshasa, vous êtes avec nous Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour Gilles Lungemo, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez dit dans votre message que l'accroissement en termes de pourcentage observé au mois d'août par rapport au mois de juillet se réduit à la recrudescence des tensions politiques.
Oui Gilles, je l'ai dit, l'accroissement en termes de pourcentage observé au mois d'août par rapport au mois de juillet serait dit à la recrudescence plutôt des tensions politiques qui ne baissent, mais par contre ne font qu'augmenter. Vous savez que le pays est en proie de tensions permanentes aussi longtemps qu'il n'a pas eu organisation des élections. Et il y a aussi une question de paix sociale, il n'y a pas de préparation des conditions salariales des fonctionnaires. Donc, toutes ces questions-là font qu'à chaque fois que les tensions puissent augmenter. Et lorsque ces tensions puissent augmenter, le population civile, donc les citoyens, sont appelés à manifester. Alors lorsqu'ils manifestent, les régimes qui se sentent des fois menacés ou bien être indignés sur la scène internationale, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander aux forces de l'ordre de réprimer. Et en les faisant, j'ai dit qu'il y a violation des droits de l'homme. Alors, quant à l'hypothèse de dire par exemple que ces rapports devraient être présentés par la Commission nationale des droits de l'homme, oui. De par la loi ou de par la constitution, c'est bien. Je l'ai dit aussi, vous devez savoir que dans notre pays, il y a une question de l'indépendance effective dans le cadre des fonctionnements des instituts. Quand vous voyez cette commission des droits de l'homme, commission nationale des droits de l'homme a été instituée par la constitution elle-même, mais ceux qui sont là ont été investis par une ordonnance du président de la République. Donc le président de la République, c'est lui qui incarne la nation, mais c'est lui qui incarne les institutions de la République. Et lorsqu'il y a des forces de l'ordre, il y a des services de l'État qui répriment, donc on sous-entend que c'est l'État. Et l'État, on voit les chefs de l'État. Et je ne pense pas qu'à ce titre, parce que j'ai évoqué cette question de l'indépendance, ces mêmes membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui ont été nommés par le chef de l'État puissent rendre un rapport l'État en cause, les institutions de la République ou bien les services de l'État qui sont présidents de la République. Donc voilà, ce sont ces questions comme ça. J'estime que le rapport du BCN c'est un rapport de ce qui est. J'entends plein de vos auditeurs parce que ça ne serait pas simplement le rapport, il faut que les Nations Unies puissent sanctionner ou bien non. Les Nations Unies, je crois avoir dit ça, que le système international n'a pas de mécanisme de sanctions efficaces. On ne fait que des recommandations, on vient par ces rapports-là, ça doit maintenant inciter ceux qui ont le pouvoir d'agir dans ce sens-là. Nous avons la justice dans notre pays. Donc c'est la justice de notre pays qui devrait agir par rapport aux données publiées par le bureau conjoint des Nations Unies. Mais
oui,
ça ne serait pas les
Sylvain.
Nations Unies qui viendront inciter
oui,
les
Sylvain.
Tribunaux pour commencer à juger le personnel.
Oui, Sylvain.
Donc le mal, c'est que j'appelle moi le problème de l'indépendance.
Merci.
Parce que même la justice, normalement, pouvait se servir de ces rapports, chercher qui sont auteurs, puis les sanctionner. Mmh. Mais est-ce que notre justice pouvait se servir de ces rapports pour commencer à poursuivre ceux qui ont commis des vévis? C'est ça
encore une autre voilà, voilà. Alors, est-ce que Sylvain, est-ce que vous avez pensé comme les autres que la CNDH serait la solution à ce que nous avons toujours observé, hein? La réponse du berger à la bergère, et quand c'est la communauté internationale qui publie un rapport, c'est les gouvernements qui réagit rapidement pour réfuter ces rapports, et que la CNDH aurait été une solution. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est vraiment sur le point que la CNDH c'est une solution à ces problèmes, à cette scène qu'on a déjà vécue, la réponse du berger à la bergère, souvent par rapport au rapport?
Oui, monsieur Gier, c'est que je venais de le dire ici tantôt, il y a un problème de l'indépendance effective dans le cadre des fonctionnements. Sur le plan de la théorie, le loi ou bien la constitution prévoit que la CNDH, c'est la solution à tout problème de violation des droits de l'homme. Mais sur le plan pratique, le CNDH est bien un problème. Je l'ai dit tantôt qu'il a aussi un problème d'abord de financement, il a un problème de l'outil, donc matériellement, il est bien des problèmes. Parce que aujourd'hui, vous savez que on pouvait avoir toutes les techniques. On a dit qu'il y a une autonomie financière, mais cette autonomie financière, elle n'est que théorique. Et c'est sur le plan pratique. C'est le même problème que la CENI dénonce à chaque fois. On dit qu'on doit débourser autant de millions de dollars pour la CENI dans le cadre de l'organisation des élections. Mais pratiquement, on ne le fait pas. C'est aussi le même problème que la CNDH pouvait avoir. Et vous savez, le BCNDH a des méthodes, a des techniques qu'ils utilisent. Ils ne peuvent pas être sur la scène de crime ou bien de fait, mais ils ont des méthodes, et ces méthodes-là, pour les appliquer, ça demande de grands moyens. Est-ce que le bureau, la Commission nationale des droits de l'homme a des moyens suffisants pour procéder à établir la trajectoire des faits ou bien la réalité des faits qu'ils ont commis? C'est ça aussi notre difficulté. Donc, théoriquement, c'est la solution, mais pratiquement, c'est difficile, parce que l'indépendance n'est pas là. Et qui doit lui être alloué en termes de financement, en termes de matériel, de moyens, merci. Par exemple, de véhicules, la logistique, ça pose problème. Alors, la commission ne peut pas bien fonctionner.
Merci beaucoup, Sylvain. Donc, ça demande des moyens. Pour vous estimez que ça aurait été une solution, mais vu les défis auxquels il fait face, ça serait impossible, raison qui justifie d'ailleurs cette faible production de rapports à ce niveau. Amos, vous nous avez également rejoint. Vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos. Voilà, on a un petit souci avec la ligne d'Amos. On va prendre plutôt, Valérie de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Cap.
Vous avez suivi les uns les autres une institution de figuration et la faible production des rapports qui serait la résultante de la politisation de cette institution, a dit Élie Lokoua. Sylvain, qui parlait de l'indépendance effective dans les cadres de fonctionnement des institutions, qui pose souvent problème, et aujourd'hui la CNDH tombe aussi dans les panneaux.
Oui, mais moi je crois que la CNDH a fait son travail, parce que vous savez que si elle avait beaucoup de moyens, je crois qu'elle aurait fait plus. Bon, si on lui donne pas les moyens, ce n'est pas elle-même de se doter des moyens. Le Parlement est là en tant qu'autorité budgétaire. Il doit veiller à ce que chaque institution puisse avoir un peu de moyens. Vous vous rappellerez que en 2015, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption et autres, le professeur Luzolo Bambilesa, après qu'il ait dressé son rapport, on ne lui avait pas donné l'argent pour le fonctionnement en 2016. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est de sa faute? Non, c'est la faute du Parlement, qui est l'autorité budgétaire, qui ne veille pas à ce que son budget soit exécuté tel qu'il était arrêté. Alors, vous comprendrez que Là, nous parcourons notre constitution. D'abord, à partir même de l'exposé du motif, de l'exposé des motifs au niveau de, du point 2, il est dit que le constituant tient à réaffirmer son attachement. Je voudrais un peu lire un tout petit peu. C'est très intéressant, oui. Le constituant tient à réaffirmer l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales telles que programmées par les instruments juridiques internationaux, ainsi de suite. C'est cet esprit qui est repris à l'article 12, à l'article 16 aussi. À l'article 12, d'abord 11, on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Ça continue. 12, on dit tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Pire que ça, au niveau de l'article 16, c'est encore beaucoup plus explicite. La personne humaine est sacrée. Point. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. S'il y a tous ces rapports et qu'on ne fait rien, l'État a failli. Pourquoi ? Parce que l'article 16 dit que l'État a l'obligation de respecter la dignité humaine et de la protéger. Comment voudriez-vous que l'on puisse parler de toutes ces violations et qu'il n'y ait pas de répression ? Non ! Il doit y avoir des répressions. Et si vous remarquez bien, ce sont des faits qui sont souvent commis dans des régions, dans des contrées en proie par les ministres, avec tout ce que nous avons, les ADF, ainsi de suite. Mais mon frère, il faudrait que l'on arrive à réprimer. La CNDH fait son travail, mais la justice doit aussi suivre. Elle n'est pas créée pour dire les droits, non.
D'autant plus que ingénieur Valérie, combien de rapports ont été publiés par la CNDH? C'est la question
elle
aujourd'hui.
Elle peut en publier autant, pour autant qu'il existe des institutions judiciaires.
Dès lors que la loi elle-même, la loi portant institutions et organisations et fonctionnement de la Commission nationale aux droits de l'homme, qui dit que la CNDH, normalement dans son article 7, qu'elle doit publier le rapport de manière semestrielle ou encore de manière ponctuelle chaque fois que la situation l'exige. Nous avons la situation au Kasaï, la situation des pygmées dans les au niveau de Kamina, et aussi les réfugiés, la question, les punaises questions des réfugiés. Et on n'a pas vu, parce que c'est des situations aussi quand même qui ont perturbé la quiétude du pays.
Oui, là, il y a une seule question à se poser. A-t-elle eu des moyens, oui ou non? Si elle en a eu et qu'elle n'a pas fait, elle est condamnable, parce qu'elle est payée pour ça. Si elle n'a pas eu les moyens, la responsabilité incombe au Parlement. Mais je sais que toutes les institutions ou tous les conseillers qui traitent des questions de droit, ils sont négligés par l'application du budget au niveau des instances qui doivent faire appliquer ces mécanismes. C'est ça le mal. Mais si elle a reçu des moyens, là, elle est condamnable. En tout état de cause, son rapport est faible et elle aussi doit faire du bruit. Elle ne doit pas rester de manière naïve en attendant qu'on donne de l'argent. Elle doit faire du bruit parce qu'elle est engagée pour ça et elle doit produire les rapports.
Merci beaucoup. Ingénieur Valérie, nous allons prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, Gérard, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Moi, je voudrais vous dire que nous devions plutôt comprendre que les problèmes de l'indépendance de ce genre d'institution n'est pas seulement un problème de la République démocratique du Congo. Et partout, en Afrique ou ailleurs, là où il y a un problème de démocratie, jamais le pouvoir a laissé ce genre d'institutions comme la CNDH ou la CENI dans leur indépendance. Déjà, au moment des nominations des animateurs, si ils ne sont pas soutenus par les pouvoirs, ils ne sont pas choisis par les pouvoirs, ils ne passeront jamais. C'est pour cela que vous avez constaté que les vrais, comme l'a dit l'un des intervenants, le vrai la vraie société civile, c'est-à-dire du côté des droits de l'homme, s'est demandé comment Mouambassé est retrouvé là-bas. Ils n'ont jamais compris. De la même façon, aussi au niveau de la CENI, vous savez comment Nangassé s'est retrouvé là-bas. La vraie société civile n'a jamais compris. Les églises n'ont jamais compris. Donc c'est partout au monde où il y a un problème de démocratie, le pouvoir a toujours cherché à contrôler ce genre d'institutions. Mais comment est-ce que celui qui a été nommé dans ces conditions paix, avoir la force et le courage de faire le contraire de ceux qui l'ont mis là-bas. Et en plus, vous demandez qu'on puisse leur donner les moyens. Mais quand on t'a mis quelque part pour la figuration, et toi tu le sais que c'est pour la figuration, mais on va te donner les moyens pour en faire quoi? Demandez seulement à ceux qui sont dans ces institutions s'ils n'ont pas les moyens pour eux-mêmes. Les moyens qui manquent, c'est pour le travail. Or, le travail ne doit pas le faire. Ces institutions dans des pays non démocratiques, c'est pour la consommation extérieure. On n'a pas besoin de leur donner les moyens pour faire le travail normalement. Donc nous devions comprendre tout cela. Nous avons un problème de démocratie. La constitution que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, qu'on n'a pas appliquée, la constitution fait cela. Les jours où nous avons un homme ou un groupe d'hommes qui décident d'amener leur peuple ou leur pays dans la voie de démocratie, la constitution sera appliquée de A à Z. Aujourd'hui, nous avons un problème d'hommes qui peuvent nous amener dans la voie de la démocratie. Les jours où nous en aurons, tous ces débats n'auront plus d'importance.
Merci beaucoup, Félicien. On va prendre Amos. Amos, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les invités de la radio de la paix. Merci au fait de m'avoir associé à ce débat. Nous avons analysé le sujet que vous avez posté et nous avons compris une seule chose. Vous allez comprendre avec tous les auditeurs que tous les États responsables, ce sont ces États-là qui ont appris à respecter la vie humaine. Même dans notre constitution, il dit que la vie humaine est sacrée. Et ce sont les autorités qui doivent d'abord à tout prix tout faire pour que l'homme soit respecté dans son intégralité. Malheureusement chez nous, cela n'a jamais été le cas. Et par rapport à ces graves violations des droits de l'homme actuellement en RDC, vous êtes sans ignorer que cela émane du fait qu'il y a un pouvoir qui veut s'accrocher à tout prix et qui ne veut pas lâcher, en dépit de ce qu'il a connu comme échec, en dépit de ses limites, en dépit du fait que la Constitution limite le mandat, malheureusement, il y a un pouvoir qui veut tout forcer pour s'éterniser aux affaires.
Alors Amos, une question. Amos, une question de curiosité. Est-ce que vous pensez comme les autres que la CNDH aurait été une solution pour couper court à tous ces jeux de ping-pong entre la communauté internationale et l'État congolais à chaque sortie des rapports relatifs aux violations des droits de l'homme? Est-ce que ça pouvait être une solution? Est-ce qu'aujourd'hui la CNDH fait réellement son travail?
C'est ça qui serait l'idéal. Malheureusement, le CNDH ne peut rien faire parce que d'abord, vous savez que le CNDH travaille avec les moyens du gouvernement en place. Le CNDH, il faut voir comment est-ce que le CNDH est le pouvoir à une main mise sur le CNDH. Voilà pourquoi le CNDH ne fait rien.
Voilà. Donc vous évoquez là. Vous évoquez là aussi les cas de l'indépendance. Merci beaucoup. Amos, ingénieur Gaston. Voilà. Ingénieur Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Vous avez la parole, ingénieur Gaston.
Merci pour la parole. Moi, j'aborde notre thématique avec un point de vue contraire à tout ce qui vient d'être dit ici. Je ne veux pas dire que tout va dans le pays, comme tout le monde le constate, mais sinon je voulais souligner quelque chose que les Congolais ne comprennent pas. Je le dis à haute voix. Tous ces rapports-là, M. JR, il y a un objectif caché derrière ces rapports. Vous voulez nous dire qu'il n'y a que des violations au Congo? Voyez ce qui se passe ailleurs, ça ne se dit pas comme au Congo. Quand nous devons avoir des rapports mensuel comme ça, tous les 2-3 mois sur le Congo. Vous êtes sûr que ces rapports encouragent les investisseurs à venir dans notre pays? Et quand ces gens ne viennent pas, qui en pâtisse? C'est nous, la population. Nous ne devons pas tourner en train de débattre sur CNDH. Non. Les violations sont partout dans le monde. Vous avez les statistiques aux États-Unis, vous avez la Chine, c'est dans tous les pays du monde. Mais quand il s'agit du Congo, M. JR, moi ça m'écœure qu'on puisse parler de nous parce qu'il y a des violations. Il y a un message caché derrière tous ces rapports. C'est pour chasser ceux qui peuvent venir nous aider à développer nos activités dans ce pays. Et donc, je m'inscris à fond contre tous ces rapports. Accordez-moi le temps, je vous cite plus de 10 cas de violation à travers le monde. Quel est le pays qui a un grand taux de criminalité au monde? Ce n'est pas le Congo. Où est-ce qu'on applique la pandémie jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas le Congo. Si les pays sont connus, mais quand il s'agit d'autres pays ici, les gens doivent faire voir qu'il n'y a qu'au Congo où c'est le calvaire, c'est le sédum. Non, ce n'est pas ça. Nous devons comprendre que tous ces rapports ont un message caché. C'est de chasser les gens qui peuvent venir nous aider. C'est vrai, tout ne va pas. On ne peut pas dire que tout va dans les pays. Il y a certains cas isolés. Nous avons suivi en France le petit Mohamed qui est à l'hôpital. Il a été violé en plein Paris par des policiers. Ça, on n'en parle pas, parce que c'est la France. Nous suivons actuellement aux États-Unis le policier qui a été acquitté, qui a abattu un noir à bout portant. Je suis à Kinshasa, je n'ai jamais vu un policier qui a abattu un monsieur si à bout portant. Je n'ai jamais vu. Ça ne se dit pas. Comme c'est au Congo, on doit montrer au monde que c'est ici où on égorge les gens pendant la journée. Moi, je ne suis, suis pas d'accord avec tous ces rapports. Et même l'idée de la création des CNDH, il y a des choses qui doivent nous préoccuper. La justice, comment développer notre économie, comment créer des emplois aux gens, afin que toutes ces histoires puissent se terminer. Les gens sont dans la criminalité. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas du travail. Les gens sont, même les militaires que vous prétendez, que les rapports prétendent violer les autres, c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés. Une fois que les choses marchent dans le pays, ces gens ne les violeraient pas. Il ne faut pas montrer aux yeux du monde que le Congo, c'est là où tout ne marche pas. Je m'inscris en fort contre ce point de vue-là.
Merci beaucoup.
Et donc, oui.
Merci beaucoup, ingénieur Gaston, d'avoir contribué dans cette émission. Maître Omar nous a rejoint également. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, très cher JR, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci, très cher JR. Je voudrais nager dans la même piscine réflexive que mon prédécesseur. Il faudra toujours être comme ça. C'est vrai, même le pape Jean-Paul II l'a dit, la promotion et la protection des droits de l'homme demeurent les seules armes pour établir la paix au monde. Nous sommes tous d'accord. C'est en ce sens que je soutiens l'idée de créer la CNDH. Mais aujourd'hui, comme l'a dit M. Adrien, je suis d'accord avec lui sur le problème de moyens. Mais là où je m'inscris en faux par rapport à M. Adrien et à M. Félicien, c'est par rapport aux animateurs. C'est vrai, je ne suis pas très proche de M. Mbamushiko, mais si vous voulez son parcours, c'est un monsieur qui a commencé son combat depuis très longtemps. Le problème n'est pas au niveau des hommes. C'est un problème structurel. Quand on dit manque de moyens, c'est un problème sérieux. Nous avons suivi il y a deux semaines par les ondes de la radio et de la télévision que la CNDH a été délocalisée ou déménagée par le propriétaire de la maison. C'était très honteux. Il y a des problèmes de moyens matériels. Ils n'ont pas assez de gens pour travailler. Deuxième chose, il y a des moyens humains. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été engagés qui ne savent pas travailler parce qu'il n'y a même pas de salaire. Il faut aller vérifier. Il y a aussi un problème de moyens juridiques. Quant à ces points, je pense que toutes les organisations des droits de l'homme en souffrent, même le VNCDH. Aujourd'hui, prenons les cas de la Syrie. Et une ancienne procureure, Carla De Ponte, qui a pu démissionner, a démontré qu'aujourd'hui, il y a des rapports, même par des institutions internationales, il y a un problème sérieux de répression. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas des moyens financiers matériels qu'on accorde à ces structures, il n'y a pas des moyens humains, c'est-à-dire les personnes qui doivent être partout pour faire des enquêtes, il y a aussi des problèmes juridiques. Les rapports sont là, mais on ne condamne rien. On aura toujours le même problème. Voilà pourquoi moi, je voudrais finir pour dire ce que le secrétaire général de l'Union Bancomon disait. Pour les droits de l'homme, il y a quatre choses. Il y a le PRR. D'abord, P comme protection des droits de l'homme par les gouvernants, P comme promotion par les sociétés civiles, R comme revendication. Ceux qui sont victimes doivent revendiquer, et R comme répression. Si on met en place ces quatre techniques, je pense qu'on ferait mieux. On peut bien dire, on peut mettre Maître Adrien, Maître Omar, J.A. Lungembo, mais s'il n'y a pas des moyens juridiques, financiers, humains pour aider ces gens à bien travailler, on ne fera rien des deux. Lorsque les rapports sont publiés, on le sait, partout même dans le monde, aujourd'hui, l'ONU est incapable de sanctionner la Russie par rapport à tout. Le président nord-coréen est en train de lancer des missiles qui les sanctionnent. Donc il y a un problème de force qui se pose, il y a un problème de sanctions qui doivent être suivies. On peut bien faire des rapports, même en bon français, on peut faire des rapports en anglais, mais s'il n'y a pas un suivi en termes de sanctions,
on verra tout voir. Merci beaucoup.
Pour nous d'interpeller l'autorité qui doit accorder vraiment des moyens et qui doit aussi sanctionner. Les droits de l'homme sont réellement une réalité.
Voilà, merci beaucoup, Maître Adrien. Vous avez rejoint donc, Maître Omar, vous avez rejoint le développement d'ailleurs des idées par Maître Adrien tout à l'heure qui évoquait d'ailleurs les trois types de difficultés. Là où il a mentionné, a souligné aussi la difficulté financière auxquelles fait face cette institution. Merci beaucoup. Maître Gervais, vous êtes à Calémie. Bonjour. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, bonjour à tous les millions de Radio Capi.
Voilà. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce que les autres, vos prédécesseurs, ont dit?
Oui, j'ai une réaction là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont consacrés dans la Constitution du 18 février. Donc au pouvoir public et à toute personne. Aujourd'hui, le grand problème, j'ai rejoint aussi l'idée de mettre la vie de Kananga, parce que le grand problème aussi est du point de vue financier. Sans financement, le nombre de la commission là ont du mal à effectuer leur travail. Aujourd'hui, même si certains rapports sont produits par les Nations Unies, c'est aussi un grand problème, aussi la faillite de notre commission nationale, parce que c'est elle qui allait bien avant publier le rapport comme il a été dit, parce que c'est elle aussi qui n'assume pas bien ses missions et ses attributions, parce que c'est pour bien dire, nous disons que notre commission doit être aussi assurée financièrement, donc les moyens matériels fait défaut aussi pour que la commission puisse commencer à publier les rapports chaque fin du mois. Nous ne pouvons pas jamais jeter beaucoup de malheurs à cette commission pendant qu'elle n'est pas bien financée. Donc nous appelons à ce titre le Parlement de pour, donc, même à l'exercice de, pour la préparation donc budgétaire pour l'année 2019-2018, qu'il y ait une part un peu valable qui pourra toutefois s'y plier et aider cette commission à bien vouloir faire son travail comme il faut. Ça, c'est notre inquiétude que nous avons.
Merci beaucoup, maître Gervais. Alors, l'inquiétude de tout à l'heure des Féliciens qui se posaient la question d'où est venu M. Mwamba, Mouchiko Kré. Voilà, donc, c'est par les soucis. Les parlements, quand il a arbitré la désignation des membres de la CNDH, alors, ils ont travaillé sur les consensus et les soucis de voir toutes les provinces l'ancienne formule se représentait donc dans cette commission. C'est ce qui fait que M. Mwamba a représenté la province du Katanga, Fernandez Mourola a présenté le Sud Kivu, Dr Chantal Nembouzou, province orientale, M. Ghislain Mboussa Ndolé, Équateur, professeur Kenge Chilombai, le Kasaï oriental, M. Amouri Lumumba Wakayembe, le Maniema, et Madame Astrid Bilonda Makengo, le Kasaï oriental, maître Belinda Lutadi, le Bas-Congo, qui est le Congo central, et docteur Olivier Wala Wala, le Bandundu. Donc c'était pratiquement dans les soucis de voir toutes les provinces être dans cette commission. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Bonjour, je suis Lungembo, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Papi.
Quelle est votre contribution, Ismaël?
Mon point de vue par rapport à la violation des droits de l'homme, je me suis bien posé la question de savoir qui sont les droits de l'homme et dans quel contexte ces droits sont violés. J'espère qu'à la publication de ce rapport, on devait se poser beaucoup de questions et de se demander juste après la publication, après ces rapports, qu'est-ce qui va se passer et quel va avoir un peu ceux qui ont été violés, les droits de ceux qui ont été violés, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme le mérite à ce niveau, parce que le rapport, c'est à chaque année ou chaque mois, le rapport est publié. Mais mon souci était de savoir réellement, après ce rapport, qu'est-ce qu'on va faire pour le rétablissement de ceux dont les droits ont été violés. J'espère que la Nations Unies et les défenseurs des droits de l'homme devait faire pourvu que ceux qui ont été malmenés, pourvu que leurs droits soient rétablis. Aujourd'hui, je vois qu'il y a un problème sérieux, conformément que quel est aussi le regard que le gouvernement et le défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur niveau, pourvu que ceux dont les droits ont été violés, pourvu qu'ils soient rétablis. Je vois que quand j'ai suivi certaines personnes, ils ont un point négatif conformément à ce que ces droits, c'était un droit, on appelle ça, c'était un soldat. Parce que depuis qu'on a commencé avec la publication de ces rapports, on n'a jamais vu les avancées pour ceux dont les droits de l'homme ont été violés. J'espère qu'on peut avoir aussi du succès jusqu'à quand on respecte même ces droits où ceux qui ont violé les droits ont été punis. Ça ne peut pas se répéter. Mais à force que ça se fait ainsi, on publie les rapports et c'est fini. Même les droits de l'homme et les ONG qui défendent les droits de l'homme, ils ne font rien. À mon niveau, je vois qu'il n'y a rien. Et c'est un souci majeur que nous tous nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'on va faire pour les jours, pour les mois qui vont suivre. Et ça, c'est qui était mon inquiétude. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Ismaël. Vous placez d'une part la victime, de l'autre côté les bourreaux, et vous posez la question sur la justice qui doit sanctionner et aussi la victime qui doit normalement rentrer dans ce droit, c'est-à-dire il faut réparer des préjudices qui ont été causés. Merci beaucoup, Ismaël, d'avoir appelé, et nous remercions tous les auditeurs, en tout cas tous les internautes ici au pays et à travers à l'étranger qui ont, disons, accordé l'intérêt à ces sujets. Ils ont préféré échanger de manière citoyenne avec nous, en tout cas sur notre page Facebook et nos différents réseaux sociaux. Nous allons nous quitter, en tout cas on ne peut pas les faire sans pour autant dire merci à toute l'équipe, hein, et aussi l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, Sylvain Matundu, Nico Kalambay et Pierrot Elameji. Cette émission a été supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très vite pour un autre numéro.